Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h38, l'Anglais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour.
Le bilan 2018 de l'immobilier vient d'être publié et il indique une nouvelle hausse, François.
Oui, c'est le réseau d'agences Century 21 qui publie les chiffres de ces quelques 40 000 transactions réalisées dans l'année dernière. Bon, ça représente près de 5% des ventes en France, donc c'est assez significatif. Le prix des logements a progressé en 2018 de 3,5% pour les maisons et d'un peu plus de 1% pour les appartements. C'est évidemment une moyenne nationale qui cache de très fortes différences. Dans les zones rurales et dans les petites villes, les prix continuent à chuter, alors que dans les grandes agglomérations, ils continuent d'exploser. Avec Bordeaux et Lyon en tête, qui ont connu des progressions à deux chiffres, bien supérieures à celles de Paris, qui restent néanmoins en haut du classement pour la valeur absolue.
Comment de telles disparités peuvent-elles s'expliquer ?
C'est la conséquence d'un phénomène qu'on a plusieurs fois évoqué ici, la concentration croissante de l'activité économique dans les grandes villes françaises. L'activité et l'emploi désertent les campagnes avec la raréfaction des usines. En fait, une économie de service, c'est une économie urbaine. La quasi-totalité des nouveaux emplois sont désormais créés en ville. C'est ce qu'on appelle la métropolisation de la croissance.
Oui.
Du coup, les Français migrent dans ces zones urbaines. En fait, la France est en train de connaître un nouvel exode rural qui voit les petites villes se vider au profit des grandes. Et l'évolution divergente des prix de l'immobilier reflète cette polarisation croissante. Et c'est ça qui explique les difficultés de pouvoir d'achat.
Vous voulez dire que le prix des logements joue un rôle dans cette crise des gilets jaunes ?
Certainement. À l'occasion de cette crise, il y a eu d'innombrables analyses sur le pouvoir d'achat ressenti, vous savez, sur les soi-disant dépenses contraintes comme les abonnements au téléphone qui n'existaient pas auparavant, qui rendraient la vie la plus difficile. Ça n'a pas grand sens. Il y a 30 ou 40 ans, il y avait d'autres dépenses contraintes. La nourriture et les vêtements, c'était bien plus cher qu'aujourd'hui, bien en sûr. Proportion du budget des familles. La vraie grosse différence avec aujourd'hui, et la seule, c'est le prix des logements qui a littéralement explosé en ville et dans certaines zones touristiques. Derrière la crise de pouvoir d'achat en France, il y a donc le prix des logements.
Mais cela devrait se voir dans les indices des prix, non ?
En fait, l'INSEE considère que le logement ne représente que 9% du budget d'un ménage. Il n'y a aucun sens. En fait, l'Institut statistique fait une moyenne entre les ménages qui ne payent pas leur logement, parce qu'ils en sont propriétaires, et puis ceux qui louent. Du coup, il arrive à ce chiffre de 9%, une moyenne qui n'est pas significative pour quelqu'un qui loue son logement dans les zones urbaines, ou même qui achète son logement.
Bon, il y a une solution pour faire baisser le prix des logements, pour le coup.
Vous savez que certains pays, la Nouvelle-Zélande étant le dernier, interdisent aux étrangers d'acheter des logements sur leur sol pour éviter que les prix ne montent. C'est très spectaculaire. Alors en France, on peut penser que ça ne réglerait pas le problème, sauf dans certaines petites zones touristiques à la mer et à la montagne. Le blocage des loyers, c'est pas plus efficace. Généralement, ça provoque la raréfaction des appartements parce que les propriétaires ne veulent plus louer si les loyers leur semblent trop faibles. Reste deux solutions de moyen terme. Ce sont les seules efficaces. La construction de nouveaux logements, et puis la mise en place de réseaux de transport public performants pour faciliter les déplacements dans les zones à forte concentration. Sur ce point, la France, et la région parisienne en particulier, a de gros progrès à faire.
François Langlais pour l'Anglais Co, tous les jours sur RTL.